Girol, la radio libre.
Et bonsoir et bienvenue, vous êtes en direct du centre d'animation Saint-Pierre pour une autre émission de Radio Girol. C'est tous les seconds mardis de chaque mois, une heure d'émission autour des cultures libres avec aujourd'hui un programme relativement chargé. Je ne sais pas si on va arriver à s'y tenir. Bon, de toute façon, on est tous les jours, enfin chaque fois, plus ou moins en retard, donc ça va.
Et en plus, on démarre presque
à l'heure. On a un programme,
on a un programme et il est rempli.
C'est exceptionnel, oui, il faut monter un peu le son, on fait toujours des réglages, on n'a pas fini.
Alors, on va monter les retours un petit peu. Alors, on va commencer par une petite interview du créateur de Wallabag, c'est toi Thomas.
Exactement.
Qui t'en est chargé.
Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire.
Non, mais on va pas commencer de suite, on va déjà évoquer le programme.
On va évoquer le programme, effectivement. Donc, je démarre sur un sujet de Wallabag, effectivement.
Donc, que tu as interviewé via un logiciel propriétaire dont on cachera le nom pour éviter
de
couvrir de honte. Ensuite, on parlera d'un musicien qui s'appelle Jack. Pareil, c'est toujours toi, Thomas, aujourd'hui, c'est toi qui as la fête. Tu vas nous parler de sa démarche artistique et tu vas nous diffuser une, voire deux petites musiques de lui dans la soirée.
Exactement.
On reviendra, bien entendu, sur l'affaire Bluetooth versus le ministère public. Ça a déchaîné les encres numériques toutes ces deux dernières semaines. On ne pouvait pas passer à côté. Hein.
Et non, on ne pouvait pas.
C'est ça. Ensuite, on vous parlera du Labix parce qu'on est tous allés faire un petit tour au Labix mardi dernier. On a ramené un petit reportage très sympa. Enfin, on l'espère.
Et on en est ressorti vivant.
Et on est ressorti vivant. Et sans clone imprimé en 3D. Ça, c'est pas mal.
Ouais.
Et ensuite, on parlera à la fin, s'il nous reste un peu de temps, mais il nous en restera, c'est sûr. On va se tenir au programme cette fois-ci de The Day We Fight Back. C'était aujourd'hui. C'était combattre pour.
C'est aujourd'hui,
oui, puisque
c'est toujours pas fini.
Surtout aux États-Unis et que.
Voilà. C'est militer pour notre droit à la vie privée pour pas que les vilains États qui se disent démocratiques nous surveillent de très près.
Et en hommage à Aaron Swartz.
Aussi, hacker de son État.
Voilà.
Et créateur, je crois, du RSS, entre autres, qui nous
du Marc de Rennes,
etc. Voilà, on va diffuser une petite musique très sympa le temps que tout le monde se prépare. On va motiver Thomas à fond pour son sujet, lui demander de ne pas parler trop vite.
Tout à fait.
On vous dit à de suite.
100% jeune, 100% libre. Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
Et vous voici de retour sur Radio Girol en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux. Juste pour vous rappeler, pour vous chers auditeurs, que vous pouvez nous joindre directement et interagir en direct avec nous sur le salon de discussion du collectif irc.freenote.net. Le salon Dies Girol, où vous allez directement sur www.girol.org, sur la page radio, vous avez le petit programme pour chatter directement avec nous et intervenir en direct. Sinon, il y a le numéro de téléphone, Antoine ?
Alors, c'est le 05 81 31 43 34.
Voilà, ça sonne chez nous, on vous répond et vous pouvez intervenir en direct. Alors, on va commencer la soirée avec Wallabag. Donc, rebonsoir Thomas.
Rebonsoir, effectivement.
Alors, explique-nous.
Moi, je vais vous parler de Wallabag. Wallabag, je vous explique un petit peu la petite histoire. Je l'ai découvert en novembre. Alors, Wallabag s'appelait pas Wallabag avant, ça s'appelait Poche. Pour ceux que ça en peut dire quelque chose, j'en avais brièvement parlé pendant une autre radio Girol, histoire d'une minute en novembre ou en décembre, je ne sais plus. Cette application, en fait, c'est une application de lecture différée qui vous permet de sauvegarder des articles sur le web. Alors, je vais pas vous en dire plus. Il y a une interview que j'ai faite du créateur de Wallabag qui s'appelle Nicolas Leillet, si je ne me trompe pas, que j'ai réalisé hier soir. Donc vous allez voir, je vais un peu poser des questions, ce qu'il a fait, son application, sa philosophie, etc. Alors pour ma part, rapidement, Wallabag, j'ai eu l'occasion de tester, mais une ancienne version. Donc je vous en parlerai sans doute après l'interview. Il y a eu des mises à jour récentes. Dans mon interview, il fait allusion à un nouveau logo. En fait, le site a été mis à jour hier soir ou ce matin. Donc Wallabag a un nouveau logo, un nouveau site. Vous allez le découvrir dans l'interview. Voilà.
C'est parti.
Alors, ouais, j'aimerais bien mettre l'interview, mais est-ce qu'on l'a, cette interview ? Parce que là, j'étais en train de t'écouter parler. Et,
oui,
elle est où, cette interview ?
Sur la clé. Où est
sur la clé.
Je t'ai passé la clé. Alors... Il m'a passé la clé.
Bon, c'est pas grave, on va mettre une petite musique en attendant. On va trouver l'interview.
Non, je n'ai pas la clé.
Sinon, on peut pas...
Girol Radio Station. Et vous voilà de retour sur Radio Girol, excusez-nous pour le couac. Donc on va lancer l'interview du créateur de Wallabag, Nicolas Leuillet.
Voilà.
Bonjour Nicolas, pourrais-tu te présenter ?
Je suis développeur PHP, donc à la base je suis développeur PHP, mais là depuis quelques mois, quelques années, je code de moins en moins là où je travaille, donc c'était vraiment un besoin personnel pour me remettre à niveau en fait. C'est pour ça que j'ai commencé ce projet, c'était vraiment pour me remettre dans le bain, parce que bon, je savais que j'avais perdu techniquement, donc c'était pour me remettre à niveau.
Wallabag, c'est quoi ?
Alors c'est un outil qui sert à la veille, qu'elle soit technologique ou pas. C'est un outil de lecture différée. Donc quand t'as 5 minutes ou t'es sur Twitter ou Facebook, on t'envoie un lien, mais t'as pas le temps de le lire parce que tu dois retourner bosser. Tu mets le lien de côté parce que ça t'avait semblé intéressant. Tu mets le lien de côté, et donc l'outil récupère le contenu de l'article et uniquement le contenu de l'article. Donc tout ce qui est publicité et les éléments du site, c'est-à-dire le menu et tout ça c'est pas récupéré, on récupère vraiment que le texte et les visuels, et comme ça après tu peux consulter ça plus tard sur ta tablette, ton smartphone, ton PC le soir en rentrant à ta maison, dans le métro. Donc c'est quand même un public pas averti, mais quand même un minimum, parce que bon, faut un serveur, donc il y a quand même un minimum à connaître, un minimum de choses à avoir. Mais le but, vu qu'il y a un service de création de compte gratuit en ligne, c'est aussi de pouvoir proposer cet outil à tout le monde.
D'où est venue l'idée de Wallabag ? C'était un projet personnel à l'origine ?
Alors c'est clairement pour moi. Il y a un an, c'était Google Reader qui fermait, tout le monde s'inquiétait. Qu'est-ce que je vais faire si Google ferme tous ses services ? Et donc moi je me suis posé la même question avec un des services que j'utilisais et qui s'appelle Pocket. Et je me suis dit, si ça ferme, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc j'ai commencé dans mon coin un petit projet qui était uniquement pour moi, et puis que j'ai mis en ligne, mais c'était vraiment juste pour mes besoins perso. Ça c'est le projet que j'ai créé pour moi, qui s'appelait à l'époque Poche, puisque c'était une copie d'un des logiciels existants, Pocket. Vu que c'était que pour un besoin perso, j'ai pas cherché bien loin pour trouver un nom. Je me suis dit, je vais l'appeler Poche. De toute façon, je serais pas embêté. C'est pour moi.
Pourquoi as-tu fait le choix de mettre Wallabag sous licence libre ?
C'est une philosophie. C'est bien entendu une philosophie à laquelle j'adhère depuis quelques années. Je suis utilisateur de logiciels libres. Je contribue sur des logiciels libres. Donc, ça me paraissait évident. De mettre Poche sous licence libre.
Aujourd'hui, tu as de nouvelles personnes qui t'ont rejointe pour t'aider sur du code, sur de la traduction.
Il y a beaucoup de monde qui aide, que ce soit justement pour les traductions, puisque bon, là, à l'époque, il y a quelques temps encore, le site était en plusieurs langues, il y avait 5-6 langues, le site internet de Wallabag, mais finalement, on l'a laissé que en anglais, puisque c'était difficile à maintenir, mais il y a eu un traducteur russe, allemand, espagnol, italien, et d'ailleurs pour l'application en elle-même qui elle est traduite aussi en plusieurs langues. Donc c'est des contributeurs occasionnels pour le code également. Ils interviennent pour des corrections de bugs, pour des nouveautés, pour plein de choses, pour des thèmes graphiques. Donc ça c'est des contributeurs occasionnels, et après il y a des contributeurs récurrents qui s'occupent des applications tierces, on va dire. L'application pour smartphone, pour Android, pour Windows Phone. Et il y a aussi, puisque déjà on travaille déjà sur la prochaine version de Wallabag, et on est à deux à développer, à travailler sur cette version 2. Pour l'instant, je les connais uniquement avec Wallabag, après c'est des personnes que je suivais plus ou moins sur Internet, déjà sur Twitter, notamment Vincent qui m'a rejoint pour la version 2. C'est quelqu'un que je suivais sur Twitter. Mais sinon non, après les autres personnes ce sont des gens qui sont venus comme ça et qui se sont proposés gentiment.
Techniquement parlant,
alors donc c'est une application en PHP et au niveau base de données, donc il y a possibilité d'avoir utilisé MySQL, PostgreSQL ou SQLite. Donc par défaut c'est SQLite, c'est du PHP un peu codé n'importe comment. Donc, puisqu'au début je suis parti de toute petite classe un peu par-ci par-là, et puis c'était vraiment pas. Enfin, je voulais sortir quelque chose de rapide, enfin, rapidement du moins, et uniquement pour moi. Donc j'ai codé ça un peu salement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est déjà sur la version 2, puisque on va être limité si on veut ajouter des nouvelles fonctionnalités sur cette version-là.
Alors dernièrement, au mois de janvier, Wallabag enseignement poche a rencontré quelques soucis, on va dire, des soucis d'ordre juridique, un petit peu une histoire contre la société Pocket. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, bien sûr. Donc j'ai reçu par mail un courrier de la part du cabinet d'avocats de Pocket, justement, que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est une société américaine et qui communique plus par cabinet d'avocats que par email. Donc ils m'ont envoyé un courrier pour demander à changer de nom, pour demander à changer le logo et pour ne plus utiliser le terme Reddit Letter, donc à lire plus tard en fait. Que eux utilisent, en fait c'est le nom de leur société derrière Reddit Letter, mais qui est une expression du langage commun, et aussi de ne plus dire que leur application était non-free. Parce que sur un tweet j'avais dit que leur application était non-free, et ils pensaient que je disais que leur application était payante. Mais non-free, dans le langage courant, ça veut dire, enfin, ça veut aussi dire pas libre, et donc propriétaire. Voilà, c'était tous ces points qui me réclamaient. En disant voilà, on n'est pas anti-logiciel libre, on vous demande pas de fermer le service, mais voilà. Donc c'était une lettre de menace à mettre sous exécution sous 8 jours. Donc voilà. Enfin, je me suis renseigné parce que bah voilà, c'est beau Internet, c'est que dès que tu lances un appel, c'est ça, c'est un peu David contre Goliath. Donc en général sur Internet, le petit est vite soutenu, et donc j'ai eu un avocat au téléphone qui m'expliquait que de toute façon en droit français, c'est pas légal, puisque des avocats ne peuvent pas contacter directement une partie opposée. Enfin, il faut passer par la justice normale. Et en plus, leur demande n'était pas forcément fondée, puisque, donc oui, le nom ressemble, mais en fait, c'est un nom commun. Donc, Pocket et Poche sont des noms communs. Moi, c'est une traduction, c'est pas vraiment la même marque. Donc voilà. Bon, après, je voulais pas perdre de temps. Avec cette histoire, donc on a cherché un nouveau nom, on a cherché un logo, on travaille dessus. Enfin là, le logo est fini, donc il va sortir très rapide, très prochainement. Mais voilà, on voulait pas perdre de temps, donc c'est pour ça que même si, enfin voilà, j'ai répondu favorablement à leur demande. Donc on peut penser que j'ai perdu, mais finalement en notoriété, ça a été plus que bénéfique, je pense, pour le projet. Donc.
Et alors justement, tu as eu pas mal d'aide de la part de la communauté sur cette affaire, notamment pour la recherche d'un nouveau nom.
On a eu des dizaines de propositions qui partaient un peu dans tous les sens, mais non, c'était très bien. On a eu plein de propositions, plein de gens qui connaissaient pas et du coup ont migré, sont venus chez Wallabag. Plein de gens, enfin voilà, des messages de soutien, et puis des personnes qui se sont proposées pour créer un vrai logo. Parce que bon, à l'époque, c'était juste un logo que j'avais récupéré sur une banque d'images qui était aussi sous licence libre, mais qui n'était pas vraiment l'identité du projet. Donc là, on va avoir un vrai logo, et voilà. Donc ouais, ça a fait parler plus en bien qu'en mal pour le projet finalement.
J'imagine que cette affaire a aussi été profitable en termes de notoriété pour Wallabag, en termes de vues, de téléchargements, etc.
Il y a eu un petit effet pocket forcément, donc on a eu il y a eu quelques bonnes statistiques en termes de visites. Donc bon, après les visites, ça veut rien dire. Enfin, s'il y a personne qui utilise le logiciel, en plus il y a eu un peu plus d'utilisateurs qui ont créé leur compte sur le service en ligne. Sur GitHub également, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues suivre le projet, donc ouais, ça a bien marché.
Il y a eu récemment un partenariat entre Wallabag et Framasoft. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Framasoft propose déjà ce genre de service, à savoir se créer un compte sur une application pour les personnes qui n'ont pas de serveur web, pour ne pas installer l'application. Et Framasoft gère les mises à jour, gère les créations de comptes et tout. Et voilà, donc il propose déjà par exemple Framanews avec un lecteur de flux RSS. Et donc moi j'avais déjà, je leur avais déjà proposé de créer plus ou moins un frein à ma poche avec cette histoire de création de compte. Et puis voilà, bon, pour l'instant c'était dans les cartons, mais enfin, il n'y avait rien de bien concret. Et là, suite à l'affaire, c'est eux qui sont venus vers moi en me proposant justement de rapatrier ce service chez eux. Et donc on a créé, enfin on a changé le nom du service, et maintenant c'est Framabag. Donc les fonctionnalités sont exactement les mêmes qu'avant. Il y a, pour l'internaute lambda, il y a rien qui change, mis à part le site, maintenant framabag.org, qui ressemble un peu plus à un site internet et qui est sous l'étiquette Framasoft, avec le bandeau principal Framasoft. Et donc je fais maintenant partie de l'association, en plus Framasoft, je suis membre de l'association, donc ouais, c'est que du plus. C'est que du plus pour le projet et puis pour moi personnellement.
Donc ce service est aussi pratique pour les internautes qui n'ont pas envie d'installer Wallabag et qui peuvent directement aller voir chez Framabag.
Juste à mettre son mail, on doit confirmer par email et 2 minutes après, on a son compte créé gratuitement. Bon, mis à part pour l'instant pour les gens qui ont une adresse email en free.fr ou la poste.net, puisque les mails n'arrivent pas, donc on travaille dessus. Mais à ceux qui veulent se créer un compte, utilisez autre chose, donc pas Gmail, parce que c'est bon, c'est Gmail. Non, pour l'instant, on a un souci, ou alors contactez-nous par mail.
Il me semble que dans le futur proche, il y a une nouvelle version de Framabag qui est annoncée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui est prévu dans la suite du projet, etc.
Donc bah déjà en fait c'est d'avoir une base technique stable et bien structurée. Donc là on travaille avec on devrait travailler avec un framework donc toujours en PHP, donc soit Symfony 2 ou soit Silex, donc un micro framework créé par Sensio Labs, donc la société qui est derrière Symfony, donc qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus structuré. Le but c'est déjà d'avoir courant 2014 les mêmes fonctionnalités et que la version actuelle, mais également une interface en HTML5 qui nous permettra d'éviter le développement d'applications pour smartphone. Et donc, comme ça, avec son smartphone, on aura tout ce qui est stockage hors ligne, que ce soit un iPhone, un téléphone sous Android ou peu importe. Il y aura une interface web et il n'y aura pas d'application forcément à télécharger sur un marketplace quelconque. Un peu comme, je pense, ce que propose Firefox OS.
Si aujourd'hui je souhaite contribuer, apporter mon aide, où je peux aller, qu'est-ce que je peux apporter au projet?
On a un site internet, donc c'est wallabag.org, donc wallabag.org. Dessus, il y a une page comment nous aider, ouais, voilà, c'est support us, aidez-nous. Donc on peut contribuer via GitHub pour le code, donc apporter des correctifs, ajouter des fonctionnalités. On peut déjà se créer un compte sur framabag.org pour utiliser l'outil, pour en parler autour de soi, pour faire la promotion de l'outil. Il y a de la documentation qui, comme beaucoup de projets, n'est jamais à jour. Donc il y a de la documentation à écrire, que ce soit en français, en anglais ou dans une autre langue. Des gens qui parleraient également une langue qui n'est pas encore prévue dans Wallabag peuvent très bien nous contacter pour traduire l'interface. Parce qu'aujourd'hui on a 7-8 langues, mais il y a des langues, je sais pas, par exemple si quelqu'un parle le chinois, il peut très bien nous contacter puisque Wallabag ne parle pas encore chinois. On peut nous soutenir un peu plus financièrement via un compte Flatter. Et voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire pour nous soutenir, pour nous aider.
Et j'imagine qu'aujourd'hui, Wallabag est présent sur les réseaux sociaux.
On a un compte Twitter, c'est lui le plus actif. On a un compte Facebook et un compte Google+, mais ça reprend en fait. Ça reprend ce que je mets sur le blog principalement. Donc, ouais, y a un compte Twitter, c'est Wallabag App, A2P. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on peut le retrouver via le site. Et c'est là-dessus où on va suivre un peu les évolutions. De temps en temps, quand on parle de Wallabag sur Twitter, je rebalance un lien. Donc, ouais, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, on a un chat aussi, enfin, présent sur IRC aussi, sur freenode.net, c'est Wallabag, ou Wallabag-fr.
Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
Et vous êtes de retour sur Radio Girol. Donc, c'était le créateur de Wallabag, Nicolas Leuillet, si je ne me trompe pas.
Voilà, exactement.
Alors,
enfin, pour finir sur le sujet, il a eu pas mal de succès. Il est assez occupé en ce moment par rapport à ce projet. Donc, il est ouvert à toute contribution, toute aide, sa documentation, communication, etc. Et je vous invite fortement à aller voir Wallabag, qui a refait le site. L'installation encore plus facile, il y a des fonctionnalités en plus. C'est vraiment intéressant.
Ou Framabag.
Ou Framabag pour ceux qui ne veulent pas l'installer et qui veulent utiliser un outil qui est déjà installé. Voilà, exactement.
Alors, pour l'instant, il s'installe tout facilement sur un hébergement même mutualisé parce que les ressources demandées par le logiciel sont relativement faibles. Oui. Il faut une base de données MySQL ou SQLite, pas encore Postgre, peut-être à venir.
Alors, il me semble que c'est dans la documentation.
Et du PHP, oui, c'est dans la documentation.
Moi, je sais que je l'ai installé, j'ai la version 1.2, elle n'est pas à jour, vraiment. Mais je l'ai en SQLite PHP, ça marche nickel sur un hébergement mutualisé aussi et j'ai aucun souci avec.
Bon. De toute façon.
On peut juste parler du nom parce qu'ils ont dû changer de nom.
Oui, on peut parler du nom, effectivement.
Et donc,
c'est
intéressant. Il y a eu un débat, enfin, il y a eu plusieurs propositions de nom.
Voilà, parce qu'il s'appelait Poche, naturellement. Ouais. Et puis, il a fait appel à la contribution des internautes, notamment sur Twitter. Et il a lancé un Framadate, justement, pour faire un choix de nom.
Oui, parce qu'en fait, ils étaient attaqués par un
groupe d'avocats.
Par Reddit Twitter.
C'est ce qui était dit dans l'interview. Un groupe d'avocats, là, on fait une lettre, etc.
Voilà, et donc, dans les noms qui ont été proposés, il y en avait un qui était assez drôle.
C'était.
Calbut. Voilà. C'est pourquoi mots, parce qu'on peut tout mettre dans
juste quelque chose. Tout mettre dans il y avait Kangourou, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y avait plein d'autres noms. L'imagination débordante des internautes.
des geeks, surtout.
Ouais.
En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec lui si on veut en apprendre plus sur son projet. On va passer très très vite au deuxième sujet de la soirée, à savoir Jack. Et c'est encore toi, Thomas, qui t'y colle.
Voilà, c'est mon deuxième sujet. J'ai envie un peu de continuer sur ce que tu avais fait la dernière fois, c'est-à-dire de mettre une musique un peu dans cette émission mensuelle. Donc j'ai un peu cherché, j'ai cherché sur Jamendo. Je sais, c'est pas vraiment bien de faire ça. J'ai vérifié, j'ai contacté l'auteur via Facebook. Peut-être qu'il nous réécoutera, je sais pas. Mais donc j'ai bien aimé sa musique. C'est de la musique un peu type électronique pop, un peu hip-hop, assez musique actuelle. Pour parler vite fait de l'artiste, il est sur Jamendo depuis peu de temps. C'est son premier album. Il s'appelle One Day. Il y a 4 morceaux dans l'album. Pour expliquer un petit peu son cheminement artistique pour arriver à cet album, il a découvert la musique avec une guitare trouvée dans la rue, une guitare qui avait que 4 cordes sur 6, et il a appris à jouer de la guitare tout seul, à l'époque où YouTube n'existait pas. Et il explique par exemple que la musique peut être dangereuse, la musique peut changer le monde. Il veut changer le monde un peu avec sa musique, c'est ce qu'il explique. Et il a choisi de mettre la musique en Creative Commons pour la partager aux autres et pas la garder pour lui, ce qui est une belle démarche.
Que l'on aime chez nous.
C'est une démarche en plus qu'on aime beaucoup chez nous. Et il dit aussi qu'il est membre d'Anonymous. Voilà, mais il ne le crie pas sur tous les toits. Bon, non, vous le savez, mais. Voilà. Je vous invite à écouter sa musique qui s'appelle Five O'Clock, la première musique de son album maintenant.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.
At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. I love you so, I can't let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. I love you so, I can't let you go. You go 5 miles away. You make me smile. You make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. I love you so, I wanna let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I love you so, I won't let you know 5 times.
Girol, la radio libre.
Et voilà, c'était Jack en direct de Radio Girol, 5 o'clock. Donc un morceau proposé par...
En direct.
Non, je vais rajouter une petite info avant que tu passes à tes sujets. La pochette d'album, il y a un super cerf sur la pochette d'album, je la trouve vraiment très jolie.
Elle est très belle.
Elle est vraiment bien faite. Voilà.
Mais tous les visuels, il faut aller regarder les visuels, même ceux qu'il met sur Facebook, qui sont très très beaux.
Ouais. Oui, à part Facebook, il n'a pas un autre site que Jamendo.
Un mobile.
Alors,
le Facebook, il n'est pas ouvert en fait. Parce que moi, j'en ai pas de Facebook.
Voilà, ceux qui n'ont pas Facebook, effectivement.
SoundCloud, il a.
Ouais. Il n'y a pas grand chose dessus.
Il y a ces quatre morceaux qu'il a. Voilà.
Mais ah oui, d'accord.
C'est récent, hein, son album date de début 2014, je pense. J'imagine que c'est son premier.
Oui, de janvier 2014.
C'est un de ses premiers.
Donc vous cherchez Jack, J-E-K-K, sur SoundCloud et vous allez tomber sur sa page et je pense que les prochains morceaux, il les mettra là.
Mais en tout cas, si vous voulez contacter par Facebook, moi j'ai pu prendre contact avec lui.
Il a répondu.
Il faut bien avouer que de notre côté, on n'a pas vraiment écouté assidûment, mais le peu que j'ai entendu, je trouve ça sympa.
Moi j'ai écouté hier, j'ai écouté deux fois parce que la loi m'est très courte.
Et la suite aussi,
on va vous proposer un deuxième morceau ensuite que moi j'aime beaucoup.
Qui va mieux à la philosophie de Girol, on va dire.
Voilà.
Ah bon, d'accord.
Donc, nous allons passer à notre prochain sujet et nous allons parler de cette fabuleuse affaire Bluetooth. C'est génial. Ouais. Notre ami Bluetooth du site reflet.info s'est fait condamner en appel pour avoir téléchargé des documents qui étaient librement accessibles sur Internet et même via un moteur de recherche.
Moi, je propose un clap-clap pour Bluetooth.
Ouais, bravo. Ouais.
Bravo Bluetooth!
Notez que maintenant c'est un vrai cybercriminel hein, grâce à la cour d'appel.
Alors bon, il va se pourvoir en cassation, donc c'est pas fini.
En tout cas, il faudrait mettre cette décision de justice en parallèle avec une autre qui concerne un ami à lui qui s'appelle Kitetoi, qui est aussi un hacker, bidouilleur, blogueur, journaliste sur reflet.info.
Alors de mémoire, c'est pas le seul, il y en a eu d'autres.
Mais là, ça touche vraiment quelqu'un de proche. Voilà, et en plus, ils travaillent tous les deux pour le même site, à savoir reflet.info. Alors, pour un petit rappel de l'affaire Tati Kitetoi, parce que ça concerne la superbe enseigne de tissu Tati, enfin de chiffon, on pourrait dire, parce qu'ils vont vraiment.
Tu veux remonter au calendrier grec, comme on dit.
Voilà. Alors, ça remonte à 99, quand Kitetoi navigue gentiment sur la toile et s'aperçoit que le serveur web de Tati est sécurisé comme une passoire. Et encore une passoire déchirée. Il peut remonter l'arborescence et accéder à plein de trucs, donc la base de données des salariés, apparemment des choses très très sympathiques. Bien sûr, il avertit Tati. Il écrit comme tout hacker, il écrit sur son blog qu'il a découvert une faille et comment il a découvert, si on peut vraiment appeler ça une faille. Et là, Tati ne s'émeut pas vraiment de ce papier. Il en publie un deuxième, un troisième, toujours rien. Et en 2000, il est contacté par un certain monsieur Barge, un journaliste de Newsbin, je crois, un gros site d'info de l'époque tenu par Havas. Et il se sert de la découverte de Kitetoi pour prouver que sur Internet, il n'y a pas vraiment de vie privée. Il réussit à trouver une salariée de Tati, d'avoir son CV, de prouver qu'elle a posté un message sur un newsgroup lesbien, diffuse son pseudo, etc., etc. Et là, c'est le drame. Tati, eh ben, il pleure et il décide de porter plainte. Donc, Kitetoi est condamné en première instance. Et il est relaxé en appel. Et on espérait tous que cette relaxe ferait jurisprudence, puisqu'en fait, la cour d'appel a reconnu le fait que le site était avant tout très très mal sécurisé, que c'était la faute à Tati.
Alors, il y a peut-être des petites différences, encore que c'est vraiment pas évident à première vue, quoi, sur le cas de Bluetooth. Alors, est-ce que tu as de quoi nous faire le détail, le résumé?
Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, il s'est aperçu en naviguant sur Internet que, en cherchant des documents qui ont attrait à la Syrie, parce qu'il faut savoir que Bluetooth travaille énormément à démasquer, chose qui est déjà faite, l'imposture française dans certaines dictatures. Parce que la France a vendu, par le biais d'Amesis notamment, et filiale de Bull, des armes d'écoute massive, on peut vraiment parler d'armes, d'armes numériques, à des copains à nous, comme la Libye par exemple, ou d'autres pays, ou le Maroc en ce moment, où la liberté est vraiment quelque chose de primordial. Hein,
Au Qatar aussi.
Et en cherchant en fait des informations sur ces entreprises françaises, il est tombé sur des documents de...
L'ANSES
qui est l'Agence nationale de sécurité sécurité sanitaire.
Un truc comme ça, oui. Ouais, un truc comme ça. Détails, mais c'est ça.
Il tombe sur, donc des documents PDF qu'il se met à lire. Et là, il essaie de remonter l'arborescence du site internet et il s'aperçoit qu'il y a un login mot de passe.
Voilà, il a téléchargé les documents parce qu'il savait pas de quoi ça parlait. Il les a donc téléchargés.
Il les a proposés à des journalistes voilà, et du coup, personne n'en a voulu. Et il les a utilisés pour le site reflet.info. Et là, l'ANSES a, pareil, a crié au scandale, a porté
plainte.
Et
là, quand il a publié, toujours pareil, c'est quand il a publié l'article, enfin, quand Reflet a publié l'article, l'ANSES s'est rendu compte que, ah, mais ces documents, ils auraient pas dû être, ils auraient pas dû tomber dans ses mains, ils auraient pas dû tomber dans ses mains. Point.
Et donc.
Le truc, c'est que.
Il porte plainte, sauf que il s'avère que c'était encore un serveur web.
Encore une méga passoire.
Voilà, un serveur web programmé par un chimpanzé.
Avec les pieds.
Avec les pieds, et il s'avère que bah voilà, c'était le drame parce que il a pu rentrer, télécharger ses documents sans jamais être inquiété.
Alors, il a été accusé d'être
accès frauduleux à un système automatisé de traitement de données, un système
de traitement automatisé des données.
Voilà.
Donc un stade en abrégé.
Voilà, de maintien frauduleux dans un stade et de téléchargement de documents privés. Il a été relaxé en avril 2013 puisque la cour a statué que il ne pouvait pas accéder frauduleusement et se maintenir frauduleusement dans un stade qui n'était pas de toute façon protégé, par lequel la porte était entièrement ouverte.
Et même l'ANSES n'a pas fait appel parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient fait une énorme boulette.
Voilà, et que apparemment les documents téléchargés n'étaient pas si confidentiels que ça non plus. Voilà. Et du coup, le procureur a décidé de son propre chef de faire appel de la décision. Et Bluetooth a été condamné en ce mois de février à 3000 euros d'amende pour maintien frauduleux dans ce système.
Alors, ils n'ont pas retenu l'accès.
Non.
Mais ils ont retenu le maintien frauduleux dans le stade et le vol de documents.
Et le vol de données.
Alors, ce qui est quand même assez, assez dramatique, c'est que donc ça fait couler beaucoup de pixels. Il y a quand même des gens pour dire « Ah, mais si, il a quand même fait un maintien frauduleux. » Il s'est quand même maintenu frauduleusement dans le stade alors qu'il n'aurait pas dû parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un accès sécurisé en remontant l'arborescence. Mais voilà. C'est complètement débile.
C'est complètement faux, effectivement. Et je pense
qu'il peut très bien y avoir des sites qui ont un accès en login et mot de passe et qui peuvent avoir des branches du site qui sont en accès direct sur des adresses.
Oui, tout à fait.
Voilà.
D'autant plus que ces documents-là étaient indexés sur Google, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que Google les a trouvés en naviguant bêtement, en suivant des liens qui étaient disponibles, ou n'importe qui aurait pu
cliquer. Mais Google, c'est un bot, donc il peut pas réfléchir.
Bref,
il a su
savoir utiliser Google. Il a su utiliser Google, en fait.
Voilà. En fait, il a su juste utiliser Google, puisque je pense que dans sa requête, il a dû mettre « je recherche juste des PDF qui concernent telle chose sur tel domaine ».
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est justement le...
Alors, donc, on lui reproche... Enfin, donc, la cour d'appel lui a reproché ça, et certains justifient ça. Et alors, donc, la question a été posée au fameux Maître Eolas, hein, donc...
blogueur, si avocat blogueur...
un avocat blogueur qui est très pointu sur pas mal de sujets. Et donc, il a fait un truc très détaillé. Il a trouvé assez logique un petit peu ce qui s'était passé parce que la première partie, effectivement, l'accès n'a pas été retenu. Le maintien, lui, alors quelque part, il le justifie parce que Bluetooth a eu la très très mauvaise idée de parler pendant son audition.
Sa garde à vue.
Alors qu'il aurait dû garder le silence. Parce qu'il a eu la mauvaise idée de dire, mais oui, je savais que c'était des documents qui n'avaient rien à faire là, puisqu'il y avait un login.
Non, il n'a pas dit ça, en fait.
Et il n'a pas dit ça exactement.
Ça a été interprété comme ça.
Ça a été interprété comme ça. Mais bon, Maître Eolas aussi a fait un raccourci quelque part par rapport à ça, en tout cas.
Donc, c'était moi la première question qui me venait à l'esprit. Pourquoi a-t-il été condamné? Effectivement, il a été condamné pour deux choses. La première, maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données. Et la seconde, vol de données. Alors, le vol de données, effectivement.
Ça, c'est très drôle, ça.
C'est très, très drôle puisque les juges, la justice en général n'a toujours pas compris que quand il y a en copie, on ne volait pas.
Mais oui, mais bon.
On pouvait parler éventuellement de contrefaçon. Ou alors il fallait créer un nouveau délit qui est la copie frauduleuse.
Et ça, c'est ce que dit Maître Eolas, c'est qu'ils se sont plantés. Ce serait délit de contrefaçon, mais pas vol. Vol de documents, c'est pas possible sur des fichiers, quoi.
Et effectivement, Maître Eolas justifie la condamnation pour le maintien dans le simple fait qu'en remontant l'arborescence, la racine du site internet demandait un login mot de passe.
Voilà, sauf que même si, ce que je comprends pas, c'est que même si Bluetooth avait dit pendant son audition en garde à vue que oui, il se doutait bien que les trucs étaient. Et n'avait rien à faire là. N'empêche que les trucs en question, effectivement, ils n'avaient rien à faire là, quoi. Et ça ne veut pas dire que tous les sites qui ont un accès à un login mot de passe, tout le contenu du site est en accès privé. Il y a bien des sites qui ont, surtout les sites qui sont qui sont gérés par les instances publiques.
Alors il y a un site très connu qui s'appelle Dropbox. Hein. Quand vous tapez dropbox.com/votre user, il vous demande un mot de passe. Mais si vous tapez dropbox.com/user/un fichier, et si le propriétaire de ce compte du compte Dropbox l'a laissé en accès public, il est téléchargeable. Ouais. La racine du site est protégée. Le fichier plus profond, enfoui plus profondément dans l'arborescence ne l'est plus.
Oui, bref, de toute façon, il y a tout un tas de sites qui sont faits comme ça et je ne vois pas sur quel terme, ni juridique ni technique, on peut maintenir que de toute façon, à un moment donné, il savait que c'était pas bon. Quoi.
Alors, j'encourage quand même nos auditeurs à aller lire la longue tirade de Maître Eolas parce qu'elle est très intéressante.
Très intéressante, très détaillée. Très bon, détaillée. Et à part effectivement cette conclusion par rapport au fait qu'il n'aurait pas dû parler, qui est un peu capillotracté, c'est dit dans les commentaires. C'est très bien expliqué par rapport à l'aspect juridique du dossier, bien sûr.
Et donc, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la méconnaissance d'un sujet technique, quel qu'il soit, par la justice, est-ce que ça ne l'affaiblirait pas, justement ? Est-ce que...
Ah bah ça, c'est aussi dans l'article de Maître Eolas, je trouve que c'était bien aussi de l'expliquer, c'est de dire que la justice, elle n'est pas là pour être compétente techniquement sur tous les sujets, c'est pas possible.
Non.
Donc oui, alors oui, c'était drôle et un peu affligeant de les entendre dire Googleux et Login.
C'est sûr que
c'est un peu affligeant de se rendre compte qu'ils ne connaissent pas la base de la base sur Internet, quoi.
C'est moi ce qui m'a ça à l'origine. Moi-même, je déforme les noms anglo-saxons parce que pour des raisons de prononciation et de façonnage de palais, va-t-on dire. Mais
oui, pareil, mais bon.
Mais un procureur qui avoue que
il a avoué qu'ils ne comprenaient rien.
Il a carrément avoué lors de sa plaidoirie que il faisait une plaidoirie sur un sujet dont il n'avait rien compris. Il a fait une plaidoirie sur un sujet qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. Il a rien compris à ce qui a été dit. Donc
triste affaire. On attend le pourvoi en cassation et
voilà.
Je
crois qu'il y a
tout le monde est un peu derrière lui quand même malgré tout parce que bon les justifications ne tiennent pas 2 secondes et demie quoi.
C'est ça. De toute façon, il me semble qu'il va avoir quelque chose dans le crowdfunding ou le don pour pouvoir l'aider à financer sa campagne. Vous savez, s'il va mettre en place.
Je sais pas parce que il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire et voilà. Parce que l'affaire est toujours en cours, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Allez sur reflet.info de toute façon ou sur le site de bluetooth.com.
Voilà, filez un peu de pépette avec Flatter sur Reflet, ça permettra de mieux protéger notre ami Bluetooth.
Peut-être qu'il prend des bitcoins.
Qu'il prend les bitcoins. Donc voilà, c'était le petit retour, notre petit retour à nous, nos 5 centimes sur l'affaire Bluetooth. Je vous invite à faire une petite, on va tous faire une petite pause musicale, on a à peine le temps.
Je vous propose qu'on mette Jack encore peut-être, hein, comme c'était une musique assez sympathique.
Alors, je propose Day Free et je pense qu'il sera d'accord avec moi, parce que c'est un très très bon morceau.
C'est le troisième morceau de l'album sur les 4.
Voilà.
La radio libre.
One day I'm strong, why
Et vous êtes de retour sur Radio Girol. C'est pratiquement la fin de cette émission autour des cultures libres et en direct du centre d'animation Saint-Pierre. Ça ne vous empêche pas de venir faire un tour sur l'IRC, irc.freenote.net, salon dièse Girol, ou www.girol.org/radio, /p/radio, je crois. Enfin bon. Et là, vous avez la petite applette JavaScript pour pouvoir parler directement avec nous et en direct. Et on vous répond en plus. C'est génial.
Ouais, il y a du monde, dis donc, sur...
Ouais, ça discute, hein, on remercie les gens qui passent, ouais. Polymorphisme, FFW...
Dit-elle en regardant son etc. téléphone.
Bah oui, forcément. Ouais. Enfin,
alors, avant que l'on soit pris par le temps, je vous propose un petit reportage, en fait. Il faut savoir que la semaine dernière, semaine du son oblige, le collectif Girol n'a pas pu se réunir au sein d'Animation Saint-Pierre. Nous avons donc décidé de tous partir au Labix, à l'aventure. Nous avons sorti épée.
Mais là, il faudrait une musique.
Mousqueton.
C'est un peu terrifiant.
Oui, tu aurais dû nous laisser tes sons.
Voilà. Et nous, voilà. En plus, on a affronté le mauvais temps parce qu'il faut savoir que mardi dernier, ça soufflait un peu à Bordeaux, ça pleuvait aussi. C'était un peu.
En fait, comme aujourd'hui et comme les jours d'avant.
Voilà. Mais c'était particulièrement
moche. Comme le dernier mois.
C'est le jour parfait pour aller au Labix. Donc, je vous propose un petit reportage de 4 minutes 22 pris sur le vif.
C'est à vélo que je viens rendre visite à nos amis du Labix, même si, au final, le temps ne s'y prête pas vraiment. Ils ont investi depuis peu l'ancien centre de tri de La Poste, du côté de Bègle. Centre de tri qui ne semble pas vraiment encore abandonné par La Poste, ceci étant dit. Trouver l'entrée de la fabrique Pola, qui accueille le Labix, relève un peu de la gageure. Mais après deux portails fermés, il y en a un qui me laisse entrer, avec mon vélo, dans la cour. Il y a dans cette cour, ci et là, quelques structures un peu bizarres, entre sculpture et architecture. L'une d'elles en construction est protégée par une bâche qui fait un bruit intéressant lorsque le vent la soulève. Je m'avance doucement vers l'entrée du bâtiment. Suis-je vraiment au bon endroit? J'ai un doute. Mais sur mon chemin... Je croise une grande caisse remplie d'objets électroniques divers. Pas de doute, le Labix n'est plus très loin. J'arrive maintenant dans un grand hall, le traverse, pour trouver au fond une cage d'escalier. J'emprunte celui-ci pour monter au premier. Je passe une première porte sur ma gauche. Elle grince un petit peu et lorsque je l'ouvre, je suis saisi par un violent courant d'air. Je marche quelques pas pour tomber à nouveau devant une porte que j'ouvre. Je tombe sur une grande pièce un peu sombre qui semble être une cuisine. Je marche quelques pas et la tourne sur ma gauche pour trouver l'entrée du fameux Labix. Mais personne. La porte reste désespérément fermée, personne ne répond, pas de lumière. Je pense que 18h15, c'est un peu trop tôt pour les bidouilleurs. Je vais attendre un petit peu. Vers 19h, quelques giroliens investissent les lieux. Du coup, je ne suis pas vraiment dépaysé. J'ai l'impression d'être un mardi soir normal au centre d'animation Saint-Pierre. Ici, Mathieu parle, avec un autre Mathieu, de développement. À côté, ça cause Python. Edouard explique comment fonctionne Tmux et Isa est arrivée avec quelques sushis à partager.
On a celle-là, mais la dernière, la I3, celle qui a une arche en alu fixe.
Ouais, ça, oui, monsieur, celle-là, il est, moi, par contre, de mon côté, je monte une Morgane.
Et là, par contre, c'est laquelle, celle-là ?
La Morgane, c'est celle à bras.
Les habitués du Labix arrivent enfin, il doit être 19h15 à peu près, et là ça commence à discuter d'imprimante 3D. C'est très intéressant, mais au final je n'y comprends pas grand chose. Ça me fait penser à une chanson que j'aime bien, de Brain Damage. Et comme elle dit...
Méfie-toi du savant fou, il fait des expériences complètement délirantes. Et bien qu'il soit génial, ça tourne toujours mal.
Girolle.
Et voilà, c'était un petit reportage qui n'engage que moi, hein, ça n'engage pas le collectif.
C'était très, très, c'était mignon.
Ouais,
c'est drôle ça aussi.
Change.
Ah, on s'y croirait. Hein.
Oui, en vrai, franchement, oui.
Donc voilà, on était au Labix et ma foi, c'était très sympa, même si chargé de famille oblige, j'ai dû partir un peu en avance.
Comme un voleur.
Comme un voleur. Non, j'ai dit au revoir quand même. Et j'ai mangé quelques sushis.
Tu es parti en fait à l'heure où les gens arrivent globalement.
C'est ça.
Mais il faut savoir qu'au Labix, les gens
moi,
partent.
Je suis partie tard et les gens étaient pas encore
voilà. Les gens
arrivés.
Partent généralement à 1h, 2h, voire 5h.
En fait, la semaine prochaine, je viendrai. Je ne suis pas chargé de famille, donc je viendrai et je resterai un peu plus tard quand même pour profiter des gens du Labix.
Tu peux rester toute la nuit si tu veux.
Je peux rester toute la nuit si je veux, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était ma foi très sympa de rencontrer les gens du Labix et de les voir évoluer dans leur élément. La fabrique Pola a l'air vraiment très sympa.
Dans leur forêt, voilà. Dans leur grotte.
Oh non.
En même temps, il y a beaucoup de barres.
Venez armés quand même, parce que le passage pour aller jusqu'au Labix, avec des lampes aussi.
C'est ça,
alors,
avec des lampes.
Moi, malgré le descriptif, je me suis trompé de bâtiment, hein, donc heureusement que.
Et je l'ai pas dit dans le reportage, j'ai failli le dire, mais en fait, à un moment donné, moi, je me suis trompé, je suis arrivé aux chiottes, je sais pas pourquoi.
Oui, parce que quand tu tournes trop tôt à droite, ça tombe dans les toilettes.
C'est ça. Donc voilà, c'était le petit reportage. Il nous reste quelques petites minutes, il nous reste 3 minutes pour être exact, et là, on va parler du dernier sujet de la soirée, et on aura bouclé. C'est The Day We Fight Back.
C'est ce que vous avez sans doute vu sur les comptes de Google+, Facebook et Twitter du collectif Girolle, mis à jour ce matin. Les bannières ont changé ce matin, et bien c'est ce qu'on va parler tout de suite maintenant.
Alors, qu'est-ce que c'est que The Day We Fight Back ? Isa, c'est toi qui as initié le sujet, vas-y.
Non, on était d'accord avec Thomas sur le pad. Donc, The Day We Fight Back, c'est une initiative américaine de
partenaires, de, ouais, voilà. Electronic Frontier Foundation,
Greenpeace,
Mozilla aussi, Tumblr,
il y en a un paquet. Et donc l'idée, c'est de déjà rendre hommage à Ron Schwartz, qui est décédé l'an dernier, qui s'est suicidé parce qu'il avait une procédure judiciaire sur
les épaules. On en avait parlé la fois précédente, d'ailleurs, il me semble.
Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde connaît le sujet.
Il avait, en fait, pour faire très simple, il avait publié des articles scientifiques qui, à son avis, et je le partage aussi, devaient être publics. Parce que en plus pour la plupart financés par des organismes qui sont plus ou moins publics, et du coup le procureur de New York s'était acharné contre lui, mais on peut vraiment parler d'acharnement.
Oui, il avait lui demandait énormément d'argent, je crois, oui, voilà. Il risquait énormément de prison, enfin c'était hallucinant, quoi. C'était hors norme, comme
voilà,
ça
c'était
fait
hors norme.
Aux États-Unis en même temps.
Exactement, et à cause de ce procureur un peu trop zélé, on a perdu l'un des jeunes hommes les plus prolifiques en matière d'innovation.
L'homme le plus brillant, quoi.
Voilà, comme on le disait en intro, à l'origine du RSS, qui vous permet de vous syndiquer librement à plein de sites et de blogs automatiquement. Il a créé le Markdown, il a participé au Creative Commons, voilà.
Donc voilà, c'était déjà son hommage. Et puis aussi pour
aussi notre
renouveler,
partie...
voilà. C'était aussi pour fêter l'éviction de SOPA.
Oui, voilà, et c'est aussi pour rester dans les consciences des gens en disant rester aux aguets, voilà, c'est pas fini. Il faut protéger la neutralité du net, il faut se méfier de ces lois liberticides dans le monde entier, hein, pas forcément limitées aux États-Unis. C'est vraiment un événement autour de ça pour faire prendre conscience, s'ils sont déjà pas conscients, de nos dirigeants, nos députés, etc.
Donc, continuer la lutte d'une certaine manière et marquer ce jour-là, le garder en mémoire et faire en sorte que tous les ans il se passe quelque chose. Et cette année, ils avaient demandé aussi aux gens d'être créatifs par rapport à ça. Et en France, on a été assez créatifs, et notamment la Quadrature du Net, qui est toujours très engagée dans ce genre de lutte. à proposer d'héberger. Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat. Donc, à quoi, tu as du net ? À proposer donc d'héberger un projet qui va recenser tous les logiciels, toutes les ressources que la NSA utilise pour écouter, pour stocker, pour analyser toutes les informations. Donc j'ai mis un lien sur le pad. Donc quand je me disais qu'un smartphone à ma disposition, c'est difficile d'aller voir dessus en deux. Mais c'est un site très très riche et il a été proposé à tout le monde, notamment en France via Linux FR, à tous les gens qui pouvaient de participer à cette documentation. Hein, parce que c'est juste documenté, c'est accessible à tout le monde et c'est très bien fait. On voit tous les outils que la NSA utilise, à quoi ça sert, comment ils sont reliés entre eux. Alors c'est technique, hein, moi je comprends pas tout, mais ça donne quand même une idée assez terrifiante du truc.
Alors, l'adresse c'est nsa-observer.laquadrature.net.
Voilà.
Voilà, je suis dessus là, c'est en train de charger.
Donc voilà. Et c'est
Donc voilà, vous avez des petites cartes heuristiques qui s'affichent quand vous allez sur les logiciels et vous voyez comment ils sont connectés les uns aux autres.
Interconnexion.
Voilà. Et à quoi ils servent, dans quelle catégorie ils se trouvent, etc. Donc certains ne sont pas documentés, donc pour les gens qui sont branchés sur le sujet, ça peut être intéressant de porter leur pierre à l'édifice. Hein. Moi, je pense que je ne vais pas servir à grand-chose, juste à communiquer l'information.
Et alors, est-ce qu'ils utilisent beaucoup de logiciels libres, la NSA ?
Mais je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Savoir, peut-être, je ne sais pas.
C'est un sujet à creuser pour la prochaine fois, peut-être.
Voilà, oui. C'est à creuser, mais c'est intéressant parce que si vous regardez, par exemple, Prism, vous voyez que Prism, c'est juste un élément du truc. Et qu'il y a plein d'autres choses autour qui sont satellites de Prism, ou dont Prism est le satellite. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi.
Alors, voilà. Pour revenir à The Day We Fight Back, il y a une page de liste des événements qui ont eu lieu aujourd'hui ou qui ont encore lieu maintenant. Il y a plein de pays dans le monde. Hein, je vois Colombie, Costa Rica, Angleterre, Irlande, Sweden, Inde, etc. Mais il n'y a pas la France. Bon. Mais il y a pas mal de pays avec des manifestations différentes dans la rue.
Mais via la Quadrature, si. Alors, il y avait un autre projet que la Quadrature a proposé. C'est le financement d'un documentaire, enfin, pas un documentaire, un petit dessin animé ou une animation. Pour expliquer justement comment on protège sa vie privée, etc. sur Internet. Quoi. Donc là aussi, j'ai mis le lien sur le pad, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure.
Tu n'as pas accès au pad.
Voilà. Donc,
c'est Reclaim your Privacy.
Oui, c'est en anglais, parce que la Quadrature fait beaucoup de choses en anglais, puisqu'ils sont, ils sont quand même
bien
branchés au niveau européen. Voilà, c'est ça.
Film d'animation.
Donc, au niveau français, on est surtout représenté par la Quadrature du Net.
Comme chaque fois qu'il y a des fentes entre libertés sur Internet, de toute façon. Bon, vous avez d'autres choses à rajouter ou on va pouvoir clore cette émission ?
On va pouvoir clore cette émission ?
Avec 2 minutes de retard, presque 3.
Ça va.
On a commencé 2 minutes en
retard. Moi, j'ai 1.
Donc, ça va. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Ce soir, c'était Antoine à la technique et aussi un petit peu à parler. Il y a eu Thomas. Ouais. Ça nous a fait le plaisir d'être là. Hein, il vient jamais.
C'est pas sur le cas, mais j'essaie de venir au radio. J'étais là la dernière fois.
Quand même. C'est vrai, il était là. Il est là pour les radios.
J'espère être là la prochaine fois aussi pour vous parler de musique ou d'autres sujets.
C'est ça. Donc c'est notre intervenant, notre journaliste radio à nous, Isa et moi-même. Donc,
et voilà.
On était très contents de vous avoir avec nous et on vous dit à la prochaine.
Alors on avait aussi des personnes qu'on aurait pu faire parler.
Oui, tout
mais
à fait.
On n'a pas eu le temps. Qui ont assisté à un atelier qu'on nous avons animé samedi.
C'est ça.
Pour expliquer comment on fait la web radio,
justement. Comment
on fait les montages audio avec Audacity ou avec Ardour. Et voilà, donc c'est un peu short malheureusement pour vous proposer de participer. Mais vous savez qu'on est là tous les deuxièmes mardis du mois et il n'y a pas de souci pour renouveler l'expérience.
Et vous pouvez toujours nous retrouver sur le site girol.org où vous retrouvez les anciennes émissions toujours disponibles en podcast.
Ou sur Révolution Sound Record, notre partenaire, et Oxy Radio.
C'est toujours pas déroché, voilà. Mais c'est pas grave.
Nous, on se donne rendez-vous le mardi 11 mars 2014 à partir de 19h pour encore une heure d'émission autour de toutes les cultures libres.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.